13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, une tentative de coup d'État en cours au Burkina Faso. Le président serait détenu dans une caserne. Des soldats campent devant la télévision nationale. La situation devient encore plus chaotique en Afrique de l'Ouest. Au Mali, un 53e soldat français a été tué ce week-end. Autre front ce matin en Europe, ce qui ressemble de plus à des préparatifs de guerre en Ukraine. L'OTAN envoie des renforts à l'Est, navires et avions de guerre. Le pouvoir d'achat, préoccupation numéro 1 et de loin, résultat d'un sondage Ipsos Soprasteria pour France Inter. Et vous, quelles sont vos préoccupations? À 76 jours de la présidentielle, appelez-nous 01 45 24 7000. À propos de pouvoir d'achat, Fabien Roussel défend le SMIC à 1 500 euros et Valérie Pécresse veut supprimer les droits de succession pour presque tous les Français. Ce sont les derniers événements de campagne. Emmanuel Macron en déplacement dans la Creuse, toujours pas officiellement candidat. Dans l'actualité encore, la vague Omicron est-elle plus sévère en France qu'ailleurs en Europe? Les films en exclusivité sur Canal+, 6 mois après leur sortie, les plateformes de streaming bien après, accord sur la chronologie des médias. Anne-Lise Cornet, en quart de finale de l'Open d'Australie de tennis, elle y croit à bloc.
Depuis le début du tournoi, j'ai testé une technique, c'est que avant de dormir tous les soirs, je me dis que je vais gagner le tournoi. Pourquoi pas finalement? Pourquoi pas moi?
Eh oui, pourquoi pas elle. Vos rendez-vous après 13h30, le feuilleton, une semaine dans la vie d'un médecin légiste. Non, il ne passe pas ses journées à examiner des cadavres.
La réalité, c'est pas celle-là. Notre quotidien, il est dans des bureaux de consultation à recevoir des victimes vivantes. 3/4 d'activité avec des gens vivants et 1/4 avec des cadavres.
Reportage Mathilde Vinceneux à 13h50. Dans le vif de l'histoire, cette question. Pourquoi les 3/4 des juifs français ont-ils échappé à la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale? Résultat de l'action de Français sur le terrain qui ont protégé leurs compatriotes, non pas du régime de Vichy. Et puis dans C'est une chanson, le comédien Melville Poupeau choisit le chanteur italien Lucio Battisti. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et la situation devient encore plus confuse en Afrique de l'Ouest, encore plus délicate pour l'armée française dans cette partie du Sahel. Ce week-end, un 53e soldat a été tué dans ce qui ressemble beaucoup à une attaque terroriste à Gao, au Mali, soldat français. Et plus au sud, un coup d'État est en cours au Burkina Faso. Des mutineries ont éclaté dans plusieurs casernes hier. Le président, Rochmar Christian Kabore, serait détenu dans une caserne de Ouagadougou depuis ce matin. Les derniers événements dans un instant. D'abord, témoignage d'un Burkinabé. Des soldats ont pris position devant la télévision nationale à Ouagadougou. Il évoque les casernes de Ouaga, la base aérienne et l'impopularité du régime.
Nous n'avons cessé d'entendre des tirs, dans les, des échanges de tirs dans les 3 casernes de Ouaga. Entre temps aussi, il y a eu la base aérienne aussi qui tirait aussi là. C'est une ville morte. Oui, oui. Il y a pratiquement, tout est calme, quoi. Tout est au ralenti. Les commerces, beaucoup de commerces ne sont pas ouverts. Nous sommes carrément coupés de Internet depuis dimanche matin, là. Hier matin, à partir de 7h30, comme ça, là. Et de toute façon, moi, je pense que ça pourrait être un soulagement, même. Et on était comprimés beaucoup, quoi. Hein. Bien que l'information, même déjà, on n'avait pas cette liberté d'information, de la liberté d'expression, franchement.
Propos recueillis par Nathanaël Charbonnier. Autre récit des derniers événements sur place, Fanny Noaro. Fanny, vous revenez de la place de la Nation à Ouagadougou.
Des dizaines de personnes se sont rassemblées place de la Nation en soutien aux militaires. L'une d'elles m'expliquait avoir foi en son armée et ne pas être surprise par les événements. Un peu plus tôt dans la matinée, le groupe s'était réuni devant la télé nationale gardée par les mutins. On attend une probable déclaration dans les prochaines heures. C'est en tout cas ce que m'a confié un des militaires postés devant. Des militaires qui étaient plutôt décontractés avec des visages sereins. Pour autant, la situation est encore floue. Une source sécuritaire confirme le coup d'État, affirmant que le président Rochmar Christian Kabore aurait été exfiltré et serait en sécurité. On devrait donc peut-être en savoir plus dans les prochaines heures.
Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Rédaction internationale de France Inter. À 76 jours de la présidentielle, l'engagement de la France au Sahel va-t-il devenir un sujet de campagne? Les soldats sont déployés depuis 9 ans maintenant pour lutter contre les bases djihadistes. Les effectifs doivent être réduits, mais l'instabilité chronique complique franchement l'opération. Alors prenons les derniers événements. Le Burkina d'abord, Nathanaël, où le pouvoir est fragilisé, pouvoir réélu récemment.
Oui, le président Roch Kabore a été réélu en novembre 2020 avec près de 58% des voix. Il avait été élu une première fois en 2015 et le scénario qui se déroule au Burkina est à peu près le même que celui qui s'est déroulé au Mali. Une réélection, un coup chaos comme on dit là-bas, c'est-à-dire une élection à un seul tour, puis une situation qui se dégrade avec d'un côté des problèmes d'insécurité, on l'a vu depuis un an, des attaques djihadistes partout dans le pays. Vous ajoutez à cela des disparités sociales énormes qui font que certains s'enrichissent pendant qu'une grande partie de la population vit très pauvrement. L'économie informelle est le quotidien pour de nombreuses personnes là-bas. Vous gagnez chaque jour ce que vous pourrez dépenser. Vous ajoutez la corruption qui existe dans toute l'Afrique de l'Ouest et vous ajoutez aussi les rancunes politiques mal cicatrisées, le poids de la tradition et des chefs coutumiers et vous aboutissez à ce cocktail explosif.
La situation se dégrade donc au Burkina et la France, une fois de plus, se retrouve prise au piège africain.
Ah, la France est vraiment en difficulté. Elle est au Mali avec Barkhane et ses soldats qui continuent de mourir, comme cela a été le cas le week-end. Vous en avez parlé avec la mort d'un militaire touché par un obus à Gao. Et ce sentiment anti-français qui monte, elle l'est de la même manière au Burkina. Pour mémoire, en novembre dernier, un convoi de l'armée française a été bloqué par la population dans le nord du pays. Mais on peut ajouter de la même façon que ce sentiment anti-français monte. Il n'est pas encore aussi aigu qu'au Mali, mais on s'en approche. Un sentiment qui s'explique par la fin de ce qu'on appelle la France-Afrique, tout simplement, mais surtout à cause de l'insécurité qui règne depuis 10 ans et dont les populations ne veulent plus, épuisées par tant d'années de drames.
Et après la mort du brigadier Alexandre Martin au Mali, deux candidats à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, appellent au retrait des soldats français. En Europe de l'Est, la tension est encore montée d'un cran ce matin. Les pays membres de l'OTAN placent leurs armées en état d'alerte et envoient navires de guerre et avions de combat qui se rapprochent de l'Ukraine, donc Bertrand Galichet.
Oui, une mise en place limitée pour l'instant est clairement destinée à envoyer un signal. Parmi les pays de l'OTAN, la France se dit prête à envoyer des troupes en Roumanie sous commandement de l'Alliance Atlantique. Du nord au sud de l'Europe, d'autres États membres de l'organisation déploient des moyens contre une éventuelle intervention russe. Le Danemark envoie une frégate en mer Baltique et 4 chasseurs F-16 en Lituanie. 2 F-35 néerlandais seront opérationnels en Bulgarie à partir d'avril. Les Pays-Bas mettent également en attente un navire et des unités terrestres pour la force de réaction de l'Alliance. L'Espagne envoie des navires rejoindre les forces navales de l'organisation et pourrait stationner des avions de combat en Bulgarie. L'OTAN précise que les États-Unis envisagent d'accroître leur présence militaire dans la partie orientale de l'Alliance Atlantique. Et puis parallèlement à cette montée de la tension militaire, Washington a ordonné aux familles des diplomates américains en poste à Kiev de quitter le pays. Londres annonce le retrait d'une partie de son personnel diplomatique. Des mesures que l'Union européenne ne suivra pas pour l'instant. Le chef de la diplomatie des 27, Josep Borrell, dit qu'il ne faut pas dramatiser puisque les négociations se poursuivent. Ce retrait diplomatique est par ailleurs jugé prématuré et excessif par l'Ukraine. Enfin, à l'instant, la France conseille à ses ressortissants de reporter les voyages non essentiels en Ukraine.
Et la Russie, de son côté, accuse l'OTAN d'exacerber les tensions en déployant de nouvelles forces en Europe orientale. La Commission européenne, elle, propose de l'argent pour l'Ukraine, un paquet de plus d'un milliard d'euros. Et la perspective de guerre n'inquiète pas seulement en Occident ou en Ukraine. L'indice de la bourse de Moscou baissait de 4,5% en début de matinée. Il a chuté de 13% depuis le début de l'année. Le cours du rouble est également à la baisse. Quel est le sujet qui vous préoccupe le plus? Question posée par l'Institut Ipsos Sopra Steria à plus de 1000 personnes pour France Inter à un peu moins de 3 mois du premier tour de la présidentielle. Et la réponse qui vient en tête est de loin, eh bien c'est le pouvoir d'achat. On en parle avec Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos à 13h30. J'attends vos questions au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter. Autre enseignement de ce sondage, 51% des personnes interrogées estiment que les candidats abordent les sujets qui les préoccupent. Cela fait donc une très forte minorité, 49% d'un avis contraire. Et cela rejoint l'analyse de Laurent Berger, le secrétaire général du premier syndicat français, la CFDT.
La façon d'aborder les sujets est extrêmement faible. On a eu jusque les fêtes de fin d'année une concentration des idées sur la question identitaire. Aucun sujet social, aucun sujet environnemental sur la table. Il y a émergence de ces sujets-là depuis maintenant le début d'année, on voit bien, mais une difficulté à ce que le débat se noue. Je crois qu'il y a une insuffisance de travail, on va être très clair. Ça fait des années qu'on dit que la question de pouvoir vivre décemment de son travail, de pouvoir évoluer dans un environnement sain, etc., est la question qui préoccupe les citoyens. Quand on est un homme ou une femme politique, comme quand on est un acteur syndical, économique, etc., ce qu'il faut, c'est avoir des capteurs qui soient la réalité. Les capteurs, c'est pas la commentaire de l'actualité. La vie des citoyens, des travailleurs, c'est pas de la macroéconomie. Macroéconomiquement, ça va plutôt pas mal, mais en réalité, pour tout un tas de citoyens, ça va pas bien.
Laurent Berger sur France Inter ce matin. Le pouvoir d'achat des Français entamé, c'est notamment la hausse des prix du carburant. Le ministre de l'économie refuse de baisser la fiscalité sur les carburants. Les Français n'en verraient pas la couleur, dit Bruno Le Maire, qui n'exclut pas d'autres types de mesures pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler avec leur voiture. En tout cas, pas de baisse de la fiscalité sur les carburants donc. Et sur ce point, réponse du candidat à la présidentielle Fabien Roussel qui présentait son programme ce matin.
Il dit que c'est pas possible de baisser les taxes sur l'essence, par contre c'est possible pour l'État de gagner plus d'argent quand les prix montent. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui, l'État gagne de l'argent, il pourra le rendre aux Français. Et nous demandons, nous, à la mise en place d'une taxe flottante qui permet de baisser le prix de l'essence tout de suite, nous proposons de 30 centimes. Le temps que le prix du baril baisse, mais surtout le temps que les compagnies pétrolières aussi jouent le jeu. Total a gagné 16 milliards, a distribué 16 milliards d'euros de dividendes en l'espace de 2 ans. Mais je pense que une part de notre argent, il est aussi parti là-bas. Et donc, nous devons demander à ce que les compagnies pétrolières jouent le jeu et qu'elles participent à cette baisse des taxes sur le prix de l'essence. Donc, c'est possible de le faire. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, la voiture devienne à ce point source d'inégalité, et notamment dans la ruralité, là où il n'y a pas de transport collectif. Et donc, il faut baisser le prix de l'essence.
Propos recueillis par Laurence Perron, Fabien Roussel au siège du PC, place du colonel Fabien à Paris. Son programme compte 180 propositions, parmi lesquelles le SMIC à 1500 euros et une indemnité de 850 euros pour les étudiants. Les sujets économiques et sociaux dans l'actualité, donc, couleurs différentes de celles de Laurent Berger et de Fabien Roussel. Le MEDEF présentait ce matin sa contribution au débat. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Tonalité classique et apaisée.
Oui, pas de proposition choc sur les 35 heures ou sur un nouveau contrat de travail. La France travaille bien, 40 heures par semaine en moyenne, souligne Geoffroy Roux-de-Bézieux. Pas de hache ni de marteau non plus pour couper à l'aveugle dans les dépenses publiques, souligne le président du MEDEF. Mais attention, les taux d'intérêt bon marché sont derrière nous. Il faut donc trier dans la dépense publique.
Nous, on pense qu'il faut essayer de classer la dépense publique parce qu'il y a des dépenses publiques qui sont utiles et d'autres qui le sont moins.
Investir dans l'innovation, oui, s'endetter dans les dépenses de collectivité, non. Le MEDEF souhaite que l'administration soit également évaluée par un comité de pilotage composé de chefs d'entreprise pour mesurer son efficacité. L'éducation nationale et la réforme de Jean-Michel Blanquer sur les mathématiques inquiètent le MEDEF. Pas assez de mathématiques au lycée. Il faut augmenter le niveau scientifique, le nombre d'ingénieurs de 30% en 5 ans. En un mot, réconcilier les Français avec le progrès sur l'écologie et l'environnement. La transition coûtera cher, ne doit pas se retrouver dans les prix à la consommation. Geoffroy Roux-de-Bézieux tacle au passage la méthode convention citoyenne.
Je donne cet exemple justement à propos de la loi climat résilience qui a été fait à partir de la convention citoyenne et donc pas par des experts mais par des gens qui forcément avaient une compétence moyenne voire faible dans le sujet. On a fait évaluer, nous, les 20 mesures. On arrive parfois à des coûts de la tonne de carbone évité complètement aberrants.
Critique en creux de la méthode Macron. Le MEDEF attend des engagements clairs et documentés des candidats.
Et à propos d'argent et de budget, il y a un autre sujet qui monte dans cette campagne au fil des semaines. C'est la taxation de l'héritage. Baisser, voire supprimer ou pas les impôts sur les successions. Bonjour Anne Souhaitemont.
Bonjour.
Et c'est un vrai clivage droite-gauche que cette question. Alors allons-y. D'abord à droite et à l'extrême droite, on plaide pour la diminution radicale, voire la quasi-suppression de l'impôt sur les successions.
Oui, et c'est Valérie Pécresse qui va le plus loin sur la question. La candidate de la droite en a même fait une sorte d'arme de campagne de début de semaine. Interview dans Le Figaro ce matin, hier soir, 20h de TF1 pour annoncer un choc des transmissions. Deux propositions, une quasi-suppression des droits de succession pour 95% des Français et la possibilité pour chaque parent de donner 100 000 euros de manière défiscalisée tous les 6 ans contre 15 aujourd'hui.
Nos droits de succession, c'est deux fois la moyenne de l'OCDE. Et donc j'assume qu'on puisse transmettre son patrimoine à ses enfants. C'est le fruit d'une vie de travail qui a été taxée, hyper taxée, retaxée. On doit pouvoir la transmettre.
Une manière, Bruno, de parler à un électorat de droite sensible à la question du patrimoine, alors qu'Emmanuel Macron, sans être encore candidat, évoque l'idée d'un coup de pouce aux transmissions de patrimoine modeste, qu'Éric Zemmour veut favoriser les donations et les transmissions d'entreprises familiales et que Marine Le Pen veut abaisser à 5 ans la période de renouvellement des abattements fiscaux.
Et que dit-on de ce sujet à gauche, Anne Souhaitement ?
Eh bien l'inverse, vrai clivage politique, vous le disiez, l'idée au contraire c'est de plafonner, de limiter les droits de succession pour corriger les inégalités, augmentation des droits de succession pour les hauts patrimoines, pour Anne Hidalgo, renforcement de leur progressivité pour Yannick Jadot, création d'un héritage maximal de 12 millions d'euros pour Jean-Luc Mélenchon qui taxerait à 100% au-dessus de ce seuil.
Et Emmanuel Macron, vous le disiez, a laissé entendre dans une interview récente au Parisien que lui aussi proposerait des baisses d'impôts dans ce domaine. Le président, en effet, toujours pas officiellement candidat à sa succession. Mais pour ceux qui aiment jouer sur les mots, il est en campagne en ce début de semaine. La Creuse, avant la Haute-Vienne, demain. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Mi-décembre, c'était le Cher et l'Allier. Il y a quelques jours, le Nord. Et maintenant, A1 dans la Creuse pour un Macron souvent qualifié de président des métropoles, Simon.
Oui, car les proches du président le savent, il aura beau se montrer, passez-moi l'expression, au cul des vaches, comme ce matin dans les étables de ce lycée agricole, il ne sera jamais Jacques Chirac aux yeux des Français.
C'est comme ça qu'on avance, en fait.
Ça fait combien de temps que vous êtes ici sur l'exploitation ?
Moi, ça va faire 40 ans.
L'Élysée a beau vanter son agenda ruralité, 181 mesures pour lutter contre les zones blanches, développer les maisons de santé ou les services publics de proximité, les chiffres et le langage technique ne suffisent pas à casser cette image de président des villes. Ses adversaires l'ont bien compris, Valérie Pécresse et Marine Le Pen en tête, qui se disputent le vote de cette France des oubliés. Alors Emmanuel Macron en campagne, dans tous les sens du terme. Pour une fois, ce n'est pas un journaliste, mais un lycéen qui tente la question à 1000 euros.
J'ai 18 ans et enfin, du coup, ça va être ma première élection. Est-ce que vous vous présentez aux élections ? La question...
Non, en temps voulu, j'annoncerai ma décision. Je vais déjà continuer à me battre jusqu'au bout. Si tout avait été réglé, c'est pas le cas. Donc réponse au prochain épisode.
Prochain épisode, la déclaration de candidature qui n'est de toute façon qu'une formalité. Le chef de l'État lui-même fait tout pour lui donner les allures de l'évidence. En ce moment, il échange dans un gymnase avec une cinquantaine de jeunes creusois façon grand débat. Ce que les communicants du palais appellent un moment d'écoute du territoire.
Simon Le Baron en direct de la Creuse pour France Inter avec Jérémy Tuile. Et donc à 13h30, le directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos, Brice Teinturier, avec nous sur les attentes de l'opinion. Et vous, quel sujet aimeriez-vous voir débattu dans cette campagne 01 45 24 7000. Je vais continuer à me battre, dit le président, se battre notamment contre le virus de la Covid. Interminable crise. Il y a 2 ans exactement, la ministre de la Santé s'appelait Agnès Buzyn et elle annonçait les 2 premiers cas de Covid en France, le premier à Bordeaux.
Le patient est âgé de 48 ans, il revient de Chine où il a fait un voyage de quelques jours, il est passé par la ville de Wuhan. Nous venons d'avoir l'information supplémentaire il y a quelques minutes d'un nouveau cas confirmé à Paris. Ces tests sont positifs pour le coronavirus.
Et 2 ans plus tard, le Covid a provoqué la mort de plus de 128 000 personnes en France, malgré toutes les mesures mises en place. Les variants se sont succédés depuis janvier 2020. Omicron aujourd'hui en ville, Omicron et Delta à l'hôpital. Et le pic, contrairement à ce qu'on espérait en début de semaine dernière, n'est pas encore passé. Le taux d'incidence et le nombre de contaminations quotidiennes est l'un des plus élevés en Europe. 360 000 cas quotidiens en moyenne en France sur les 7 derniers jours. Alors que le gouvernement a annoncé l'allègement des mesures anti-Covid à partir de début février, est-ce que la vague en France serait plus vigoureuse et longue qu'ailleurs ?
Eh bien, comparer le nombre de cas par pays, c'est un peu comparer des torchons et des serviettes, selon les épidémiologistes. D'abord parce que nous ne sommes pas du tout au même stade de l'épidémie partout en Europe, observe le professeur de santé publique au CHU de Lille, Philippe Amouyel.
Si on prend l'exemple du Royaume-Uni, ils ont été les premiers à voir un démarrage massif des contaminations par Omicron et une transmission extrêmement importante. Et quand on regarde bien sûr le Royaume-Uni, il est sur sa phase descendante, alors que la France est encore sur sa phase ascendante et va probablement atteindre un plateau. Mais par exemple, le Danemark est dans sa phase ascendante.
Autre grosse différence, selon Philippe Amouyel, la politique de test, ce qui conduit le professeur Lillois à inciter à regarder d'autres courbes.
Les tests ne sont pas systématiques dans les populations. Ce sont des tests qui sont faits en fonction ou de leurs symptômes ou des demandes qui leur sont faites par leurs différents gouvernements. Donc là, il existe une hétérogénéité. Donc l'élément qui est important de regarder dans ce contexte, c'est le nombre des hospitalisations et le nombre des entrées en soins critiques. C'est là que va se situer le risque de crise sanitaire si nos hôpitaux sont débordés, s'ils ne peuvent plus prendre en charge l'ensemble des patients.
Aujourd'hui, l'Allemagne ne publie pas ses chiffres d'hospitalisation quotidien. En revanche, leur taux en réanimation est 7 fois inférieur à celui de la France. Mais nous sommes encore très affectés par la vague Delta.
Et c'est aujourd'hui que le pass vaccinal remplace le pass sanitaire pour les plus de 16 ans. Alors vous avez 0, 1, 2 ou 3 doses. Vous trouverez tous les détails sur franceinter.fr. La fatigue des règles sanitaires est de plus en plus manifeste. Alors que la version Omicron du virus est très contagieuse, et bien certains assument de ne pas s'isoler malgré un test positif, Maureen.
Après 2 ans de pandémie, Armand n'y a finalement pas échappé. Un dîner avec des amis et le test vire positif. Il ne s'isole pourtant pas complètement.
Je ne me suis pas empêché de faire quelques magasins. Je suis allé en terrasse prendre des cafés ou des verres.
Une décision motivée par des symptômes très légers et un nombre de contaminations au plus haut dans le pays.
Vivant dans une grande ville, je me dis que le Covid est un petit peu partout. Et les personnes qui sont hospitalisées sont pour la plupart non vaccinées. Donc c'est difficile de protéger des personnes qui n'ont pas voulu se protéger à la base.
Mais tout le monde peut l'attraper, même 2 fois. C'est le cas de Juliette, le variant Delta il y a 2 mois. Omicron il y a 10 jours malgré la vaccination.
Autant j'ai été bonne élève sur mon premier Covid. Là, j'avoue que par sentiment d'usure, j'ai moins respecté les règles.
Omicron lui donne un simple mal de gorge et lui passe l'envie de mettre de nouveau sa vie entre parenthèses.
Je suis sortie, j'ai été faire mes courses, j'ai fait des rendez-vous professionnels masqués.
Juliette est tout de même restée prudente, mais s'interroge.
Puis après tout, voilà, ayons-le, celui-là. Autant jouer la carte de l'immunité collective.
Des cas graves sont tout de même possibles, mais Juliette est persuadée qu'après la peur de la maladie, celle de se retrouver de nouveau confinée a pris le dessus chez de nombreux Français.
Il est possible de mettre fin à la phase aiguë de la pandémie cette année. C'est ce qu'estime le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Nous pouvons mettre fin au Covid en tant qu'urgence sanitaire mondiale, ce qui ne veut pas dire, évidemment, que le virus ne circulerait plus.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
2 Français en quart de finale d'un des 4 plus grands tournois de tennis de l'année, le Grand Chelem à l'Open d'Australie à Melbourne. Après Gaël Monfils chez les garçons, Alizé Cornet s'est qualifiée cette nuit en battant en 3-7 la Roumaine Simona Halep, la tête de série numéro 14. Un quart de finale, c'est une première pour la très attachante joueuse originaire de Nice, professionnelle depuis 15 ans déjà.
Ça représente beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'abnégation, beaucoup de ténacité, des qualités que j'adore, donc c'est génial. Après, ce que je me suis dit depuis le début du tournoi, j'ai testé une technique, c'est que avant de dormir tous les soirs, je me dis que je vais gagner le tournoi. Et en fait, c'est vrai que ça fait pas de mal de se faire un petit peu d'autoconviction positive, parce que on est toujours tellement en train de se poser des questions, et voilà, là je me suis dit, ben... pourquoi pas finalement? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas aller au bout? En tout cas, si je suis pas la première à y croire, personne n'y croira pour moi. Donc voilà, ça part de là.
Un propos recueilli par Fabrice Abgras. L'autre résultat de la nuit, le numéro 2 mondial Daniil Medvedev se qualifie pour les quarts. Il jouera contre le Canadien Félix Auger-Aliassime. Demain, début des quarts, Monfils Berrettini, Nadal Chapovalov, Barty Pegula et Krejcikova contre Krejs. En football, ce sont ce soir les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Guinée-Gambie et Cameroun-Comores. Particularité pour les Comores, ce sera certainement un joueur de champ qui gardera les buts. Les 3 gardiens ne peuvent pas jouer, l'un est blessé. Les 2 autres sont covidés. Dior et Azzaro lancent le bal. Ce ne sont pas des joueurs de football. On parle de la semaine des défilés haute couture, printemps-été, qui commence aujourd'hui à Paris. Et la présentation des nouveaux modèles de vêtements se diversifie. Ce ne sont plus seulement des défilés physiques, mais aussi des vidéos, des shows avec hologrammes, voire sur le métavers, le monde virtuel en ligne. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
La crise sanitaire a en fait accéléré un phénomène qui était en germe depuis quelques années.
Il a fallu être créatif pour s'exprimer autrement. C'est ce que raconte Olivier Tiskens, directeur artistique de la maison Azzaro, pour qui donc la crise a joué un rôle de révélateur.
Déjà, les défilés devenaient plutôt des lieux où il y avait des personnes qui étaient de plus en plus des influenceurs, des célébrités. Et dans un sens, je ne crois pas que l'impact au niveau de distribution a été si lourd en enlevant le défilé.
Effectivement, après une période de sidération, les ventes se sont organisées différemment avec des showrooms virtuels et des plateformes qui ont aboli les frontières.
Nous, on travaille maintenant avec Luxury Pavilion, qui est Alibaba, finalement, qui est sur le marché chinois, a lancé cette nouvelle plateforme. Face aux nouvelles méthodes d'achat, on sent qu'il y a une accélération, en fait, et qui fonctionne aussi, on le sait, avec les nouvelles générations. Donc finalement, je pense que ça a précipité une évolution qui allait de toute façon se faire.
Emblématique de ce nouveau modèle, la jeune marque française de streetwear de luxe, Champ Paris, qui doit son succès aux réseaux sociaux. Abdel Shaker, son créateur.
Notre chiffre d'affaires, il a augmenté avec le digital. C'est Instagram qui a réussi à rapprocher les clients. On a communiqué avec des vidéos, avec nos ambassadeurs comme J Balvin, Kingsley Coman, Bidat. Ça a été assez compliqué au début, mais maintenant ça va très bien. Tout le monde s'y est fait.
Champ Paris qui présente ce soir pour la première fois en France un défilé en hologramme en marge des défilés haute couture, alors que certains ont déjà investi le monde virtuel du métavers.
Et les défilés haute couture, c'est jusqu'à jeudi. Et dans les années 70, parmi les premiers à imaginer des défilés grands spectacles, il y avait Thierry Mugler. Le couturier né à Strasbourg est mort hier. Mort inattendue mais naturelle, font savoir ses proches. Il avait 73 ans. Combien de temps après la sortie d'un film au cinéma pourrons-nous le voir sur nos écrans à la maison? Et quelle somme les chaînes de télévision et plateformes de streaming vont-elles mettre dans le financement de la production française? Voilà les deux questions clés en lien avec la chronologie des médias. Bonjour Alexandra Akoun.
Bonjour.
Après de longues négociations, un accord vient d'être signé. Alexandra, Canal+ garde la primeur de la diffusion des films sur petit écran 6 mois après la sortie.
Oui, Canal+, grand gagnant de ces négociations musclées qui ont duré des mois. La chaîne APH garde son avance sur les autres diffuseurs grâce à l'accord passé avant Noël avec le cinéma. 190 millions d'euros par an pendant 3 ans. Contre une fenêtre avancée de 8 à 6 mois après la sortie en salle. L'autre grand vainqueur, Bruno, c'est Netflix. La plateforme va pouvoir diffuser des films 15 mois après leur sortie, contre 36 jusqu'à présent. En échange, le géant américain s'est engagé à produire une dizaine de petits films ici en France, au budget entre 3 et 4 millions d'euros. C'est moins que ce que le gouvernement lui avait promis cet été, une fenêtre à 12 mois, mais bien mieux que les autres plateformes comme Disney+ et Amazon Prime, qui elles vont devoir attendre 17 mois leur fenêtre de diffusion et proposer leurs films à gros budget, à partir de 25 millions de dollars, aux chaînes gratuites. Ce qui veut dire, surtout pour Disney, ne pas s'en réserver l'exclusivité pour sa plateforme vidéo, avec le risque, selon certains, que Disney réduise la voilure de ses sorties en salle dans l'Hexagone. Enfin, les gratuites TF1, France Télé et consorts sont à 22 mois, le tout pour un accord qui entrera en vigueur le 10 février.
Et dans le monde du cinéma, cette semaine seront rendues publiques les nominations pour la 47e cérémonie des Césars. Ce sera mercredi. Dans la série Récompense, c'est parti pour le 48e prix du Livre Inter. Ce prix de lecteurs et d'auditeurs auquel nous sommes si attachés, jury constitué d'auditeurs de France Inter, qui travaille sous la présidence d'un écrivain. Alors qui, cette année, pour diriger les travaux? Eh bien, ce sera Delphine de Vigan, prix Renaudot 2015 pour D'après une histoire vraie. Le nom a été révélé tout à l'heure dans le 7-9 de France Inter. Delphine de Vigan, au micro de Léa Salamé.
J'ai vraiment envie d'entendre les lecteurs. Je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que d'entendre les gens parler de livres, en fait, des livres qu'ils aiment ou qu'ils détestent d'ailleurs. Et c'est une manière finalement de parler du monde, bien sûr, de parler de soi. On peut dire des choses très intimes quand on parle de livres, tout en étant un peu voilà masqué d'une certaine manière. Et donc j'ai vraiment très hâte d'entendre de ces débats et d'y participer. Ce que j'ai envie d'entendre, c'est voilà comment les uns et les autres s'approprient aussi un roman, une lecture, parce que au fond, quand on est écrivain, d'ailleurs, on s'en rend compte très souvent à quel point il y a autant de lectures de votre livre que de lecteurs et qu'on peut vous dire absolument tout et son contraire à propos d'un roman. Et ça, je trouve ça toujours très fascinant.
Et si vous souhaitez être membre du jury de la présidente Delphine de Vigan, Eva Bétan attend d'ores et déjà vos candidatures de vraies et belles lettres, soit via franceinter.fr, allez sur notre site, vous trouverez facilement le mode d'emploi, ou une lettre papier à cette adresse France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Dites-nous quel est votre rapport à la lecture. Parlez-nous de vous. Parlez-nous des livres et pourquoi vous avez envie d'être juré. Les candidatures sont reçues jusqu'au 28 février inclus. La météo dans un instant.
Entreprendre, c'est toujours une grande aventure. Mais trop souvent, entreprendre rime avec attendre. Attendre l'ouverture de votre compte pro, attendre qu'un conseiller prenne votre appel, attendre que vos virements soient effectués. Attendez, vous n'en avez pas assez d'attendre.
Alors passez chez Conto, le compte qui facilite la vie des pros. Avec Conto, ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes. La gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Conto, le compte au service des pros.
France Inter aime.
Il n'y a pas de plus beau mandat que celui de maire.
On me propose d'être ministre.
T'hésites ?
Finalement, je te croyais différent des autres, mais t'es prête à vendre père et mère pour quelques miettes de pouvoir.
Les promesses, un thriller politique de Thomas Kruithof.
Ça fait 12 ans que je la vois se bagarrer pour les Bernardins. Je te demande juste de lui faire confiance un peu.
L'engagement d'une femme politique, maire d'une commune de banlieue, tiraillée entre son envie de tenir ses promesses et son ambition personnelle.
Donc, je suis honnête, mais je mens.
Une promesse non tenue, c'est pas un mensonge.
Avec Isabelle Huppert et Reda Kateb, Les promesses, le 26 janvier au cinéma. Un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Eh bien, c'est une journée ensoleillée.
Oui, avec du soleil quasiment partout, alors quelques bémols malgré tout. La grisaille se morcelle parfois bien difficilement vers le Val-de-Saône, vers la Loire par endroits, vers l'ouest de la Bretagne également. Sur le Languedoc-Roussillon, ça s'éclaircit doucement, le vent de sud-est reste sensible. Côté thermomètre, on est souvent de saison, alors un petit peu juste quand même sous la grisaille tenace. 3 petits degrés attendus à Dijon, 4 à Orléans, à Lyon, 7 à Brest, Metz et Mulhouse, 8 degrés à Dieppe ou à Paris, 11 degrés à Bordeaux, à Montauban, 12 pour Limoges et pour Nîmes, jusqu'à 15 degrés du côté de Tarbes. Demain encore de nombreuses gelées, le matin attention sur les routes. La grisaille résistera du nord-ouest jusqu'aux frontières du nord demain. Également autour de la Garonne, vers le Val-de-Saône, mais ailleurs ce sera ensoleillé.
Merci Elodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
La santé, évidemment, et le système de soins, l'identité française, l'histoire, la sécurité, l'écologie, le féminisme et le pouvoir d'achat. Voilà au gré des semaines de campagne déjà écoulées, des événements, des primaires et des entrées en liste des candidats, les thèmes qui ont été explorés depuis l'automne dernier. Sur lequel l'élection peut-elle se jouer? Quel thème constitue la priorité numéro un de l'opinion et de la personnalité des candidats et des sujets qu'ils abordent? Qu'est-ce qui aura le plus d'importance dans le choix ou l'abstention des électeurs? À 76 jours de la présidentielle, Ipsos Sopra Steria, en partenariat avec France Inter, publie un nouveau sondage thématique. Quels sont les enjeux de la campagne aux yeux des personnes interrogées? Sondage réalisé mardi et mercredi dernier auprès de 1067 personnes âgées de 18 ans et plus et représentatives de la population française. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir pour vos questions et interventions. Notre invité jusqu'à 13h45 est le directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Bonjour Brice Teinturier.
Bonjour.
Merci d'être sur France Inter. Et tout de suite, une première question, celle de Paul. Bonjour Paul.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Fontaine qui est dans l'Isère.
Oui, c'est l'agglomération de Grenoble.
Bien, c'est bien noté. On fait un peu de géo avec vous en même temps. Quelle est votre question?
Toute simple. Les sondages, c'est bien gentil, mais la réalité, c'est autre chose. Ma question est simple. Disons que pour la grande majorité des candidats à la présidentielle, je pense que le pouvoir d'achat des retraités et des actifs n'est peut-être pas tout à fait leur problème. On parle sécurité, sécurité, du soir au matin et du matin au soir, mais en ce qui concerne, disons, la garantie du pouvoir d'achat, là, c'est une autre paire de manches. Je donne un exemple, si c'est possible. Hein.
Rapidement, allez-y.
Je peux y aller ?
Oui, allez-y.
Retraité de la SNCF, privilégié, paraît-il, depuis des années, on est au courant. 0,4% en 2021, veuillez m'excuser, mais le pouvoir d'achat n'a pris un petit coup. Alors les chiffres, c'est bien gentil, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Mathsup, j'ai fait l'ENA du bas en bas, hein, l'école des nuls et des analphabètes, mais je m'en aperçois tous les jours, néanmoins, le pouvoir d'achat baisse et je ne suis pas le seul à le dire.
Et vous voudriez bien
et on en parle pas,
qu'il en soit question davantage. Merci Paul pour votre intervention. Est-ce que Paul est représentatif, Brice Teinturier?
Eh bien, monsieur, vous disiez les sondages c'est une chose, mais la réalité c'en est une autre. Ben justement, les sondages sont à l'aune de ce que vous venez de décrire, puisque dans notre enquête, les Français disent bien que c'est le pouvoir d'achat qui les préoccupe en premier lieu, devant le système de santé, ensuite on a l'environnement, et donc les sujets dits régaliens comme immigration ou délinquance arrivent derrière. Donc oui, le pouvoir d'achat est aujourd'hui la question centrale. Et puis oui également, les Français, comme vous monsieur, nous disent dans cette enquête qu'ils trouvent qu'il y a un décalage entre ce dont parlent les candidats et les médias, qui parlent beaucoup de Covid et d'immigration, et ce qui est la préoccupation des Français, d'abord le pouvoir d'achat, et puis le système de santé. J'ai toujours dit que les enquêtes d'opinion, c'était au service service des Français parce que ça a reflété ce qu'ils nous disent. Je crois que c'est assez confirmé là entre votre témoignage et ce que nous mesurons en tout cas.
Et le pouvoir d'achat priorité numéro 1, c'est très net, hein, Brice Teinturier, 51%, loin devant le système de santé. Hein.
Tout à fait, c'est la première des préoccupations. Et ce qui est frappant, c'est que c'est la première des préoccupations pratiquement dans tous les électorats.
Voilà.
À gauche, au PS, chez la France Insoumise, mais également chez les sympathisants de l'AREM, également chez les sympathisants LR, alors que pendant longtemps, chez ces derniers, c'était plutôt la délinquance ou l'immigration, également chez les sympathisants du Rassemblement National, bon, à quasi-égalité hein, avec la question de l'immigration. En réalité, il n'y a que deux familles politiques qui ne mettent pas le pouvoir d'achat en numéro un. Ce sont les sympathisants écologistes qui mettent l'environnement et les sympathisants de Reconquête, donc Éric Zemmour, qui là se focalisent véritablement sur la question de l'immigration, plus encore que ceux du Rassemblement National. Partout ailleurs, pour les Français, le pouvoir d'achat, c'est la question clé aujourd'hui.
Et donc ça traverse les générations également.
Ça traverse également les générations et ça traverse également les catégories sociales, puisque quand on regarde cette question et qu'on la trie par l'âge, par la profession, etc., on voit bien que chez les moins de 35 ans, comme chez les 35-49 ans, comme chez les plus de 60 ans, la question du pouvoir d'achat arrive en tête, et également des cadres aux ouvriers, avec des nuances, avec des différences de niveau malgré tout, mais la question du pouvoir d'achat est la question essentielle chez les employés, chez les ouvriers et, je repense à monsieur, chez les retraités également.
Question d'Anne-Marie dans la Sarthe. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour, merci d'avoir pris mon appel.
Je vous en prie, nous vous écoutons.
Alors, moi, ce qui me terrorise pratiquement, c'est l'inaction climatique de nos dirigeants. En fait, pour moi, ça confine à l'aveuglement. On nous parle que du coût de la transition écologique. Je ne comprends pas comment ces personnes ne peuvent pas se rendre compte que c'est un facteur de progrès, de création d'emplois et de richesses. Et ceci n'est absolument pas présent dans les programmes des candidats déclarés actuellement. Ne parlons pas de ceux qui ne sont pas déclarés.
Merci Anne-Marie. Alors, Brice Teinturier, l'environnement, on le disait hein, quand même, troisième position, mais c'est vrai que ça vient loin derrière. Est-ce qu'il y a un sentiment que c'est un sujet oublié de la part d'une partie de l'opinion ?
Alors, d'abord, c'est véritablement quelque chose que les Français nous mettent avec constance, dans le top 3 ou 4 de leurs principales préoccupations. Donc, ça n'a pas disparu, y compris quand le Covid était au plus fort. Ouais. Donc, c'est bien toujours là. C'est en troisième position aujourd'hui, à quasi-égalité avec le système de santé. C'est derrière le pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, la prime. Et oui, les Français nous disent également que cette préoccupation qui est forte pour eux n'est pas suffisamment présente chez les candidats ou dans les médias. Donc ce hiatus, il est très important. Autre manière de le mesurer, on a posé aussi une question que je trouve, moi, très éclairante sur quelle est la crise principale pour vous. Est-ce que c'est la crise sociale, la crise environnementale ou la crise identitaire ? Bien, en numéro 1, c'est la crise sociale pour 42% des Français. Et puis juste après, c'est la crise environnementale pour 33%. Et assez loin derrière, 25%, la crise identitaire. Donc ce hiatus entre ce qui préoccupe les Français et ce dont parlent les candidats, il est bien présent et on le mesure bien à travers nos enquêtes.
Et là, du coup, il y a une différence entre générations. Les moins de 35 ans accordent... Alors, ça reste la crise sociale leur première préoccupation, mais la crise environnementale vient juste derrière. Il y a un vrai effet de génération.
Oui, on a un vrai effet âge, mesuré également depuis longtemps. Ce sont davantage les moins de 40 ans, les moins de 35 ans qui sont extrêmement sensibles à la question environnementale. Ils savent qu'ils vont vivre avec, tout simplement, le réchauffement climatique, même si, vous l'avez dit, la question du pouvoir d'achat reste malgré tout en tête, mais moins nettement chez eux.
Allez, question de Nathalie au standard. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour. Mais écoutez, moi, j'ai envie de parler de deux sujets, effectivement, deux sujets pour qu'une société sera heureuse, parce qu'on ne parle pas beaucoup de bonheur dans cette campagne. C'est un, la santé, et deux, l'éducation, que les gens soient bien soignés et qu'ils soient bien éduqués pour faire des gens intelligents. Et la santé, oui, on parle de Covid, mais on ne parle pas beaucoup des moyens qui sont donnés à tout le personnel médical. C'était vrai avant la crise Covid, c'est encore plus vrai en ce moment, évidemment. Mais qu'est-ce qui est vraiment prévu pour ces gens-là et pour qu'on soit tous bien soignés et puis l'éducation, parce que ben voilà, des enfants bien éduqués sont des enfants plus intelligents avant. Et je viens d'apprendre que Macron avait prévu de faire payer des universitaires et enfin, je trouve ça, c'est incroyable. Quoi.
Alors
ces deux sujets ne sont pas assez travaillés, effectivement, ne sont pas assez expliqués dans les campagnes des clients.
On n'en est pas là encore hein, pour ce qui est de faire payer les universités, on n'en est pas là en termes de propositions. Brice Teinturier, alors on l'a dit, système de santé élevé dans les préoccupations, ça vient en deuxième plan, mais je voulais qu'on entende Nathalie, parce que moi j'ai été
surpris, le système scolaire vient tout en bas de la liste des préoccupations. Alors qu'on a vu plusieurs candidats s'attaquer, entre guillemets, à un programme pour l'école.
Oui, quand on dit le système scolaire, effectivement, c'est la dernière des préoccupations des Français par rapport à toutes celles qu'on avait testées, quand on leur demande de choisir. Si on dit l'éducation, c'est un petit peu moins bas. Ça embrasse plus large que système scolaire, l'éducation. Mais dans les deux cas, vous avez raison, ça reste des objets qui sont pour les Français plus larges, moins concrets, moins immédiatement, à tort ou à raison, mais moins immédiatement perçus comme des sujets centraux. Et les candidats, quand même, parlent de plus en plus, moi je trouve, de l'éducation. On voit bien que sur différents aspects du système scolaire ou universitaire, on a des débuts de propositions. Oui. Mais pour les Français, malheureusement, ce n'est pas ça qui s'impose comme un thème majeur. Il y a aussi une difficulté pour eux, je crois, et qui provient de ce que font les candidats, à pouvoir comparer clairement ce que les uns et les autres proposent. Parce qu'il y a des propositions un petit peu à droite et à gauche, mais il n'y a pas de manière extrêmement claire, posée par un candidat de gauche, un candidat de droite, un candidat d'extrême droite, qui vous voulez, ces propositions en manière éducative qui permettraient de bien voir en quoi elles sont différentes de tel autre candidat.
Ça amène une autre question plus générale. La campagne a commencé ou pas de ce point de vue-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un sujet de débat qui est en train de se cristalliser ou pour l'instant, c'est encore un peu flou?
Non, c'est encore un peu flou. On n'a absolument pas de cristallisation sur ce que moi j'appelle la controverse centrale de la campagne, c'est-à-dire le sujet sur lequel on va véritablement se positionner. On voit bien que ça bouge encore, qu'il y a des plats qui tournent autour de la table, si vous me permettez l'expression, mais que le menu n'est pas fixé avec le plat principal sur lequel véritablement les Français vont se positionner. En revanche, il commence un peu plus à rentrer dans la campagne. L'intérêt pour la campagne électorale, l'intérêt pour l'élection, les taux de participation potentiels commencent à remonter un peu, mais ils sont en deçà de ce qu'on avait à la même époque en 2017.
Ce qui est également marquant dans cette enquête, vous en avez dit un mot, c'est l'ampleur du décalage entre les attentes et ce dont parle la campagne. On en redit un mot, 51%, très courte majorité des personnes interrogées estiment que les candidats abordent les bons sujets. Ça fait 49% qui estiment qu'ils n'abordent pas les bons sujets.
Mais absolument, et c'est colossal, et il faut s'attarder sur un tel résultat. Il montre bien le hiatus qui existe entre les attentes de l'opinion et puis l'offre, comme on dit, programmatique des candidats ou des médias. Et c'est une des raisons qui fait aussi que les Français ont du mal à s'intéresser, à rentrer dans cette campagne électorale. Ils ont vraiment le sentiment que ce dont on leur parle ne correspond pas suffisamment à ce qui construit leur sujet de préoccupation à eux. Et on l'a évoqué, pouvoir d'achat, système de santé et environnement, ça ce sont les trois principales préoccupations des Français. Et ils nous disent que ce dont parlent plutôt les candidats, c'est le Covid-19, l'immigration et puis ensuite la délinquance. Donc il y a un vrai décalage dans l'agenda des préoccupations des Français et l'agenda de ce dont parlent les candidats notamment.
Autre décalage, vous testez la crédibilité des différents candidats sur chacun des sujets. Alors vous passez en revue les principaux candidats, puis il y a une case « Aucun d'entre eux est-il crédible ou pas sur tel ou tel sujet ?» Et il y a donc une case « Aucun d'entre eux ». Et à chaque fois, c'est cette case-là qui l'emporte, si j'ose dire, sur chaque thème. Entre 26 et 42% des personnes interrogées ne citent aucun candidat comme crédible sur tel ou tel thème, ce qui interroge sur le niveau de déception et peut-être d'abstention en avril.
Oui, c'est pour le coup ce qu'on appelle aussi la crise du résultat en politique et la défiance vis-à-vis des responsables politiques à véritablement répondre concrètement aux enjeux qui les préoccupent. La crédibilité comparée, vous avez raison, c'est le premier résultat, montre que sur de très nombreux sujets, les Français nous disent « mais aucun n'est véritablement capable, à mes yeux, de répondre à cet enjeu ». Ensuite, on a des choses qui sont quand même très différentes suivant les candidats. On voit par exemple que sur la délinquance et l'immigration, c'est plutôt Marine Le Pen qui est perçue comme la plus crédible. Sur beaucoup de sujets plutôt économiques, c'est Emmanuel Macron. Sur la question de l'environnement, eh bien c'est plutôt Yannick Jadot. Donc il y a des crédibilités aussi qui sont très segmentées en fonction du positionnement des responsables politiques et de la façon dont on se dit là-dessus il est bon, là-dessus il n'est pas bon. Mais le thème central, c'est aussi, vous l'avez souligné, que pour beaucoup de Français, aucun n'est crédible.
Et sur la crédibilité des candidats, quand on interroge ceux qui se disent sans préférence partisane, et l'idée que j'ai derrière ça, c'est de voir comment éventuellement peut bouger l'opinion, aucun candidat là non plus ne trouve réellement grâce à leurs yeux. Ils sauvent un peu Macron, Zemmour, Alors Macron plus généralement, Zemmour et Le Pen sur terrorisme, délinquance, immigration et Jadot sur l'environnement.
Oui, parce que ceux qui se disent sans préférence partisane sont véritablement les plus éloignés du système politique, ceux qui s'y intéressent le moins, et du coup, ils sont le plus sensibles aux candidats qui ont le plus de saillance. Alors, on a Emmanuel Macron aux certains enjeux parce qu'il est président en exercice, donc là, il repère un certain nombre de choses, et puis on a des enjeux saillants comme l'immigration ou la délinquance, qui est plutôt attribué en termes de crédibilité à quelqu'un comme Marine Le Pen ou comme Éric Zemmour. Parce que, j'ai envie de dire, il ne parle que de ça, en tous les cas, ils mettent le paquet en termes de différenciation sur ce sujet, et cela depuis longtemps, au moins pour Marine Le Pen.
Et c'est très frappant, à l'exception de l'environnement pour Yannick Jadot, de noter à quel point les candidats de gauche, peut-être hors Mélenchon, mais en tout cas Hidalgo, Taubira notamment, sont jugés peu crédibles sur les sujets de préoccupation.
Oui, sur beaucoup de sujets, c'est très émietté, ils sont peu crédibles. Vous l'avez également dit à l'instant, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon qui tire le mieux son épingle du jeu sur ces questions de crédibilité comparée. Mais on voit bien que le problème pour la gauche, c'est, même si sur les inégalités sociales, elle est bien plus crédible que, par exemple, les candidats de droite, mais globalement, pour ces candidats de gauche, ils ont peu de marqueurs forts, où ils donneraient le sentiment d'être véritablement crédibles. Encore une fois, Marine Le Pen, elle a ce marqueur sur l'immigration et la délinquance. Jean-Luc Mélenchon, il l'a sur les inégalités et un certain nombre d'autres thèmes. Les autres candidats à gauche ont plus de mal, Yannick Jadot sur l'environnement évidemment, mais sinon ont plus de mal à imprimer une crédibilité sectorielle forte et incontestable.
Merci beaucoup Brice Teinturier d'être venu dans les studios de France Inter et les résultats de ce sondage en partenariat avec Inter, donc on le retrouve sur franceinter.fr. 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre dans une dizaine de minutes, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
Pourquoi les trois quarts des juifs français n'ont-ils pas été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale? Les historiens répondent.
Et c'est une question que Éric Zemmour veut rendre saillante.
On verra cela avec vous dans une dizaine de minutes. Le feuilleton, une semaine dans la vie d'un médecin légiste avec Mathilde Vinceneux jusqu'à vendredi. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le festival Premier Plan d'Angers s'ouvre aujourd'hui. Il présente, comme son nom l'indique, des premiers films. Et le président du jury est cette année Melville Poupeau, comédien, réalisateur, mais aussi écrivain et musicien. Et il est à votre micro le temps d'une chanson.
Et c'est d'une chanson de 1972 que Melville Poupeau a choisi de me parler. Comunque bella, de l'italien Lucio Battisti.
Alors Lucio Battisti, c'est ma compagne qui me l'a fait découvrir il y a une dizaine d'années. Anastasia, qui a grandi en Italie et qui connaît beaucoup mieux la musique italienne que moi. Dans les premiers temps où on se connaissait, on passait des soirées à écouter Lucio Battisti, à décortiquer les paroles. Et puis moi, j'ai la chance de parler italien. Je l'ai appris à l'école. J'ai eu un très bon professeur au lycée et puis une camarade de classe qui était italienne qui m'a quasiment fait mes devoirs pour que j'aie au moins la moyenne. Et puis ça m'a donné envie de bosser et de perfectionner mon italien. Et depuis, j'ai ce rapport à l'Italie très intime et j'y vais dès que j'ai un moment de vacances. Avant, j'aimais bien imaginer que je pouvais aller voyager dans le monde entier, ce que j'ai un peu fait grâce au cinéma. Mais maintenant, quand on me dit « t'as du temps de libre », je fonce en Italie. J'ai toujours aimé l'Italie et les Italiennes. Et cette chanson représente un peu tout ça à la fois.
Tu, vestita di fiori, o di fari in città, con la nebbia o i colori, cogliere le rose a piedi nudi e poi con la sciarpa stretta al collo bianca come mai. Ma
cette chanson,
elle est très poétique, très imagée. Elle nous raconte le retour d'une femme aimée après une nuit d'adultère. Donc elle revient habillée de pluie pour retrouver son imaginé de son mari, ou en tout cas son homme, après avoir passé la nuit dans les bras d'un autre. Et pour une fois, c'est vraiment le mec qui est trahi et qui est dans la position douloureuse. Et surtout, le refrain Comunque bella, qui veut dire et malgré tout si belle, ou belle quoi qu'il en soit, raconte bien cette idée que même si on a été trahi, qu'on a été malheureux à cause d'une femme, on continue à la trouver belle quand elle vous quitte et quand elle vous annonce que voilà, vous n'êtes pas forcément l'homme de sa vie.
Eri bella.
Che quando un mattino tornasti vestita di pioggia, con lo sguardo stravolto da una notte d'amore, siediti qui, non ti chiedo perdono perché tu sei un uomo.
Vous vous êtes déjà senti trahi, vous?
Oui, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. En l'occurrence, la chanson me parle au-delà de ça. C'est pas le sujet qui m'a plus touché, c'est plus sa forme poétique. Et puis la musique aussi, parce qu'il y a un côté dans cette chanson que je trouve très intéressant, comme souvent chez Lucio Battisti, beaucoup de ruptures. Un couplet très sentimental, et tout à coup le refrain arrive, et ce qui est très intéressant, c'est que les instruments, la batterie, rentrent sur le deuxième temps du refrain. Donc il y a une espèce de petit contretemps comme ça, un coup de cymbale avec du flanger par-dessus, donc ça c'est un effet qui fait une espèce de vague comme ça. On pourrait presque s'endormir sur le couplet, entendre cette voix murmurer, ces petits accords de guitare, et tout à coup, bam, il y a ce grand coup de cymbale, et puis le truc plus pop, rock, enfin, qui démarre pour le refrain. Et voilà, il y a plein d'éléments, je trouve, qui font que cette chanson est très riche.
Merci beaucoup.
Di niente.
Comunque bella de Lucio Battisti, c'était donc Frédéric, le choix de Melville Poupeau.
Président du jury du festival Premier Plan d'Angers qui se tient jusqu'à dimanche et on le retrouvera, Melville Poupeau, à l'affiche du film Les Jeunes Amants de Karine Tardieu avec Fanny Ardant en salle la semaine prochaine.
À demain Frédéric.
À demain.
Et dans le feuilleton jusqu'à vendredi, grâce à Mathilde Vinceneux, nous passons une semaine dans la vie d'un médecin à la spécialité particulière, le docteur Jean Hiquet, 39 ans, est médecin légiste depuis une dizaine d'années. Il exerce à Pau. En quoi consiste ce travail, son travail? Dans ce premier épisode, il est question de la vocation et d'un métier qui ne correspond pas à l'image qu'on s'en fait.
Alors, origine caucasienne, corpulence forte. Effet personnel, enfin bijoux, aucun. Absence de lésions traumatiques récentes visibles. Tache verte abdominale non développée. Rigidité marquée, généralisée. Bon, rien de suspect. Il était vu vivant la dernière fois quand ? L'idée de devenir médecin légiste, pour moi, elle arrive assez tôt au lycée. Elle arrive en première, où je découvre ce métier à travers des lectures, des ouvrages d'une autrice américaine, Patricia Cornwell, qui raconte le quotidien d'une médecin légiste qui s'appelle le docteur Kay Scarpetta. Et j'ai le souvenir d'avoir été complètement emporté par ses ouvrages, et je me suis dit, tiens, ça doit être intéressant, cette recherche de la vérité. J'étais aussi très intéressé par toutes les matières scientifiques, donc je me suis dit, tiens, bah ça pourrait être chouette de pouvoir allier à la fois des compétences scientifiques, médicales, au service d'une enquête. Et donc j'ai fait mes études de médecine, j'ai fait plusieurs stages en médecine légale qui m'ont convaincu que c'était ce que je voulais faire. Puis maintenant, ça fait 11 ans que j'exerce ce métier, qui est un métier passionnant. Il n'y a pas une journée qui se ressemble et je suis toujours animé de la même passion.
On a une vision du médecin légiste qui est debout à côté d'un cadavre en salle d'autopsie. C'est ça la vision première. Ouais. Au final, votre journée, ce n'est pas totalement ça. Vous travaillez plus sur les vivants, au final.
Alors tout à fait, on a une image qui est véhiculée beaucoup par les séries télé, hein, qui aujourd'hui d'ailleurs nous pose un vrai problème au quotidien, parce que notamment quand on se retrouve devant une cour d'assises où on doit exposer nos constatations, vous avez des jurys populaires qui sont abreuvés de séries télé dans lesquelles des médecins légistes arrivent à vous donner l'heure du décès à la minute près. La réalité, c'est pas celle-là. Aujourd'hui, un bon médecin légiste, c'est quelqu'un qui sait douter, mais effectivement, notre quotidien, il ne se passe pas dans la morgue. Notre quotidien, il est dans des bureaux de consultation à recevoir des victimes vivantes, des victimes abîmées, blessées, traumatisées. À la louche, on est sur 3/4 d'activité avec des gens vivants et 1/4 avec des cadavres. Souvent, les gens nous disent « Ah oui, mais toi, au moins, les tiens, les patients, ils t'embêtent pas, ils parlent pas. » Je leur dis « Bah, détrompez-vous, en fait, mon quotidien, c'est à 75% des gens qui parlent, des gens qui expriment une souffrance, des gens qui pleurent, des gens qui nous livrent leur vécu traumatique. » Et moi, j'ai la chance, personnellement, de laisser à l'UMJ toutes les histoires que je vois au quotidien. C'est-à-dire qu'une fois que je ferme la porte, je ramène pas chez moi des images, des souvenirs, des flashs.
Qu'est-ce que ça vous a appris à vous, professionnellement, mais personnellement aussi, de travailler avec des victimes et de travailler sur des morts ?
On apprend à ne pas juger, à adopter une posture neutre, c'est ce que nous demande la justice, hein, de porter un regard très objectif sur une situation. Après, sur l'aspect mort, moi en tout cas, ça m'a permis de ne pas avoir peur de la mort. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de la mort, j'aurais plus peur de la souffrance. Et il y a un certain apaisement dans la mort.
Et une semaine dans la vie d'un médecin légiste, feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Dans le vif de l'histoire aujourd'hui, Jean Lebrun, revenons sur un argument qui a traversé le début de campagne sous l'influence d'Éric Zemmour. Pétain a sauvé les Juifs français, phrase prononcée en 2019 sur CNews et qu'il assume. Il était poursuivi jeudi dernier pour cela devant la cour d'appel de Paris. En première instance, il avait été relaxé. La décision sera rendue après la présidentielle, mais l'audience a bien eu lieu pendant la campagne, ce que le candidat interprète comme ça. Les juges veulent-ils voler le scrutin aux électeurs de droite comme au moment de l'affaire Fillon ?
Électeurs de droite, oui, c'est une déclaration à prendre au pied de la lettre. Éric Zemmour est candidat à la Réunion des droites. Enfin, en tout cas, la pétainiste, increvable, et celle qui se nomme encore gaulliste, par habitude. Le pari, c'est celui-ci, où on gagnera sur Pétain, où ce sera foutu. Alors, à cet effet, Zemmour a choisi habilement un chiffre peu souvent avancé, et qui n'est pas faux. En France, en 42-44, les 3/4 des Juifs n'ont pas été déportés. Les historiens ont établi que Vichy était un régime xénophobe, mais aussi antisémite. Il n'importe, Zemmour répète, Pétain aurait sacrifié les Juifs étrangers pour épargner les Juifs français. Voilà ce qui se serait passé en haut de l'État français.
Les historiens de la période insistent de plus en plus sur ce qui est advenu en bas.
L'un de ces chercheurs se nomme Jacques Semelin. Sur la recommandation de Simone Veil, il avait commencé à interroger cette énigme française, 3/4 de Juifs non déportés. Et il raconte sa longue enquête dans un livre et aussi les réactions que provoquèrent ses publications il y a une petite dizaine d'années. Les Français ont-ils été xénophobes ? Oui. Certains allaient-ils jusqu'à l'antisémitisme ? Sans doute. Mais une fois passé le moment de fausse unanimité pétiniste de 40, ils ont peu à peu retrouvé leur point de repère traditionnel. Semelin cite l'idée d'égalité qu'avait enseigné l'école républicaine, la pratique de la charité chrétienne que prônaient les églises. Zemmour soutient que s'ils avaient été sondés en 1942, ils auraient été hostiles au droit d'asile. Alors comment l'affirmer ? L'important, c'est ce qu'ils ont fait. En juillet 42, tout de suite après les premières rafles spectaculaires, le cardinal Saliège, archevêque de Toulouse, grand handicapé, dont la bouche ne parvient plus qu'à exprimer quelques mots, fait lire une lettre pastorale qui affirme « Où est passée la France généreuse, les Juifs sont nos frères ». C'est cette intervention. Et d'autres, et certes pas la générosité du gouvernement Pétain-Laval, qui a fait freiner l'exécution des tâches honteuses ordonnées par les Allemands.
Si tant de Juifs ont échappé à la déportation, Jean, c'est aussi qu'ils se sont sauvés eux-mêmes.
Ils étaient encore 40 000 qui, en 1944, survivaient discrètement à Paris, mais ils s'étaient majoritairement dispersés à travers le pays, dans les replis de la carte, dans la poussière des hameaux, où les maires faisaient souvent semblant de ne pas les voir, recueillant même leurs enfants dans les écoles. Les enseignants juifs étaient interdits, pas les élèves juifs. On pense évidemment au village des Cévennes, ce jardin d'Israël. Mais il y en a eu tant d'autres, jusque dans votre Vendée, Bruno. Chavagne en paillet.
Et les quelques 3800 justes des nations recensés par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem n'ont pas, cela dit, suffi à sauver 200 000 juifs.
Toujours la même question, le haut, le bas. Il y avait en bas des hommes et des femmes qui ne sont pas allés chercher de reconnaissance après-guerre et qui, plus tard, forcés de questions par les enquêteurs, ont dit simplement « Nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout ». Et ils n'ont pas expliqué comment ils avaient procédé au cas où nous aurions à le refaire, ajoutait-il. Quand on assiste aujourd'hui à la banalisation de la haine, c'est réconfortant d'entendre Semelin rappeler la banalité du bien.
Oui, mais n'entre-t-il pas dans une zone dangereuse en rappelant ce chiffre? Les trois quarts des Juifs n'ont pas été déportés. Et les autres?
Il est tout à fait conscient de leur sort. Simplement, Semelin dit son désaccord avec le discours de Jacques Chirac en 1995. La France a commis l'irréparable. Il n'est pas le seul à contester cette assimilation du pays avec le régime de Vichy. Badinter aussi, pour ne citer qu'un nom. Éric Zemmour, pareillement, me direz-vous. Oui, mais la différence, c'est que pour Semelin, le discours du Veldiv de Chirac 95 se discute, alors qu'à entendre Zemmour, ce serait ce discours qui serait le seul acte criminel.
Jacques Semelin, avec Laurent Larcher, une énigme française. Pourquoi les trois quarts des Juifs n'ont pas été déportés? C'est publié chez Albin Michel. Merci Jean Lebrun. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré dans quelques minutes. Quel est le programme?
Un autre Bruno, Bruno Latour, pour nous parler de la nouvelle classe écologique.
À tout de suite.